constitutionnel par les réformes qui lui sont exigées par les États-Unis. Une porte ouverte qui indigne l'opposition, que cela soit dans le clan de Moïse Katumbi ou dans celui de l'ancien président Joseph Kabila. Francine Muyumba Nkanga est une cadre du PPRD. Pour elle, les déclarations du chef de l'État sont à minima paradoxales, voire contradictoires.
La constitution de la RDC était présentée par l'IDPS comme une constitution de l'étranger, qu'il fallait, selon eux, congoliser. Et aujourd'hui, le président Tshisekedi évoque un processus constitutionnel sous des impulsions extérieures. Donc cette contradiction traduit une véritable cacophonie politique à mon humble avis. S'agissant des élections de 2028, on nous explique aujourd'hui qu'il serait impossible de les organiser parce que le pays est en guerre. Pourtant, il convient de rappeler que le deuxième mandat du président Tshisekedi a été obtenu précisément dans ce même...
Radio G, www.radio-g.fr.
Bienvenue dans l'émission 30 minutes de bonheur. Nous allons passer 30 minutes ensemble à semer des graines que nous pourrons arroser et voir grandir. Nous nous retrouvons tous les vendredis des semaines impaires à 9h10. Et si vous souhaitez réagir à notre émission, vous pouvez le faire sur le site www.radio-g.fr. Aujourd'hui, nous recevons Antoine. Bonjour Antoine. Et Dominique, notre invité également. Bienvenue à tous les deux. Nous allons parler de méditation soufie. Alors Antoine, dis-nous tout sur la méditation soufie. Je ne connais pas du tout. Antoine, dis-nous comment t'en es arrivé à la méditation soufie. Qu'est-ce que c'est ? On te laisse parler.
D'accord. Bonjour, en tout cas, merci de m'avoir invité.
Eh ben avec plaisir.
C'est une démarche que j'ai eue... Bon, il y a déjà assez longtemps où il y avait vraiment une question de sens, de retrouver les sens par rapport à ce que je percevais, ce que je voyais. Et j'ai eu cette nécessité aussi d'aller voir, je me sentais à l'étroit en fait, et d'aller voir et d'aller découvrir d'autres façons de voir le monde. Et c'est pour ça que j'ai voyagé, je suis parti donc pendant plusieurs années pour... beaucoup en Afrique de l'Ouest et au Maghreb. Et après, déjà pour se découvrir soi-même, aller jusqu'à ses limites. Et puis j'ai pu rencontrer des gens extraordinaires, hein, de toute tradition confondue. Et j'ai rencontré dans ces voyages donc des soufis. Ce qui m'a donné le souhait d'aller plus loin avec eux et de rencontrer certains de leurs maîtres dans ces régions. Donc j'ai poursuivi ce voyage jusqu'à rencontrer un maître au Maroc, hein, qui s'appelait Sidi Hamza. Et à partir de ce moment-là, en fait, le voyage un petit peu extérieur a changé pour devenir plus un voyage intérieur et une découverte de soi. Et après, là, je suis rentré en France. Ça, c'est une époque où il n'y avait pas d'Internet.
Et du coup, c'est quoi ? C'est un maître soufi, hein, c'est ça dont tu parlais ?
Oui, c'est ça.
Donc c'est quoi exactement un maître soufi ? Enfin, ou le soufisme en général, qu'est-ce que...
Le soufisme, je dirais, c'est avant tout une expérience et c'est un goût. Souvent, dans le soufisme, on dit que c'est une expérience et un goût. C'est quelque chose. C'est comme on prend l'image du miel. C'est on peut pas expliquer le goût. Il faut faire goûter.
C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai.
Donc il y a vraiment cette notion d'expérience, de partage. Voilà. Et c'est un cheminement vers soi pour une transformation intérieure. Souvent dans le soufisme, on parle plus de purification du cœur, de cheminement vers la découverte de soi, vers la connaissance.
Oui. Tu sens que ça t'a transformé
Totalement, à travers les rencontres. Et à travers, oui, c'est avant tout les rencontres qui transforment.
Oui.
Et dans le cadre des méditations, donc ce que nous on propose en fait, c'est cette notion de partage. Et dans les méditations qu'on ouvre au public, c'est de pouvoir partager ce goût et ses saveurs. Il y a différentes modalités hein, des méditations. Et une d'entre elles, par exemple, c'est de répéter un genre de ce qu'on appelle un mantra dans l'hindouisme.
Oui.
Et, la ilaha illallah, qu'on répète. Et dans ce nom, on résume un petit peu tout le cheminement. Parce que les premiers termes, la ilaha, c'est une négation, en fait. C'est-à-dire, il n'y a pas de réalité sauf la réalité. Et dans cette première partie, en fait, le début du cheminement, c'est déjà de se dépouiller soi-même, d'abandonner les illusions, les projections. Et c'est ça, cette première partie de s'effacer, que tous les voiles tombent, pour que seul le réel et ce qui est dans l'instant apparaissent.
Oui, c'est beau ça.
Ah oui, c'est on a beaucoup de divinités qui sont cachées en nous.
Ouais.
Et il y a les choses qui sont évidentes dans nos comportements, dans notre regard sur la vie. Et puis il y a des choses qui sont plus profondes. Voilà. Donc, à travers cette méditation, donc on commence à partager et à faire goûter. Parce qu'en réalité, c'est une expérience vécue, c'est pas quelque chose qui doit être mental. C'est pour ça que quand on me dit le soufisme, j'ai pas envie de comment je peux faire un débat pendant des heures sur l'histoire du soufisme, qui est machin, mais c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'est-ce qu'on vit intérieurement et qu'est-ce qui se passe en nous. Souvent, on utilise des petites histoires ou des images pour représenter, parce que on exprime quelque chose qui n'est pas exprimable, mais qui n'est que vécu, donc on peut faire que des allusions.
D'accord. T'as un exemple de...
Il y a une histoire de Majnoun et Layla, qui sont... Majnoun, c'est le fou amoureux éperdument de Layla. Donc il la recherche partout. Et quand il arrive chez elle, il frappe à la porte et il appelle Layla, il lui demande, Layla, viens, ouvre-moi la porte. Et elle demande, c'est qui? Il lui dit, mais c'est Majnoun, c'est moi. Et donc, du coup, elle refuse de lui ouvrir. Et le lendemain, il revient, et il continue, il frappe à la porte, elle lui demande, mais qui est là? Il dit, mais c'est moi. Et donc, elle refuse de lui ouvrir. Et il fait ça pendant des jours et des jours et des jours. Et un jour, finalement, il vient à la porte, elle lui demande, mais qui est là? Et il lui dit, c'est toi. Et à ce moment-là, il lui ouvre la porte. Elle lui ouvre la porte. Ça veut dire qu'il y a un moment, il faut s'effacer totalement,
oui,
complètement, pour que ce qui est puisse apparaître.
Ah oui, c'est une belle image.
Et après, dans la méditation aussi, il y a une chose qui est essentielle, c'est la magnification et l'intention et l'importance que l'on donne aux choses,
oui,
et aux instants et aux moments. Donc quand on entre dans ces moments, en fait, c'est d'élever la grandeur de cet instant, comme rejeter déjà tout notre fardeau de la journée,
oui,
et de le mettre derrière, et de sacraliser ce moment comme si c'était vraiment le plus essentiel et le plus important de tous.
Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup du moment présent, enfin.
Voilà.
C'est le moment le plus important, mais c'est difficile.
Et c'est d'y rentrer dans le lieu, dans l'espace et dans le temps, et d'abandonner tout ce qu'il y a avant pour se mettre dans ces... Quelle que soit la méditation, d'ailleurs, que l'on pratique. Parce que ça peut être une technique, mais au-delà de la technique, il y a vraiment l'intention et la sincérité.
Oui.
Et il y a des fruits... Donc, à travers ces méditations, quand elles sont faites et pratiquées régulièrement, on a des fruits, finalement, de ces méditations qui sont... Déjà dans le regard que l'on porte sur les choses.
Oui.
Et souvent, on est spectateur de ce changement. Très souvent, quand on essaye de se changer par soi-même, ou souvent, il y a des périodes de l'année où on prend des bonnes résolutions qu'on ne va jamais tenir.
Ça, c'est vrai. Je crois qu'on fait tous ça. Bizarrement, le 1er janvier. Juste au 2.
C'est le mois de janvier. Oui.
C'est le mois de janvier.
Par contre, là, en fait, on abandonne cette prétention.
Oui.
Parce qu'on ne prétend plus, c'est notre ego toujours qui prend la place et qui dit « je vais arriver à faire ci, je vais arriver à faire ci ». Et là, on abandonne cette prétention pour laisser faire et laisser circuler ce qui est. Et donc ça, c'est un fruit de l'invocation, parce qu'on est spectateur de ce changement. Et on voit et il y a progressivement une adéquation entre notre état intérieur, quelque part ce cœur qui se purifie, le regard vers le monde qui change,
oui,
l'amour vers les gens qui change, et le comportement aussi qui change. Mmh. Et il n'y a pas d'effort. Enfin, si, il y a un effort, mais il n'est pas là où on l'avait mis auparavant.
Mmh.
Et puis, ce qu'on doit ressentir, c'est la paix, en fait. C'est ça, le...
Ça, c'est l'état ultime, en fait. Enfin, c'est l'aboutissement de...
Alors, c'est pas une technique, souvent, parce que maintenant, aujourd'hui, avec toutes les pratiques, on fait des techniques où on se dit, ben, je me mets là et je dois me sentir bien. C'est vrai, oui. Mais en réalité, c'est le fruit de ces méditations qui nous amène dans un état permanent de cette paix, quelle que soit la condition.
Et tu ressens cette paix au quotidien?
Oui, c'est un travail qui avance. Et on ne doit pas chercher à changer les choses. On va changer notre regard sur les choses. Et c'est ça, on trouve les fruits. Et aussi, donc, par rapport à ça, il y a sur ce regard que l'on peut porter sur l'autre. Ça, c'est une autre notion qu'on a un peu dans le soufisme. C'est que si on voit un défaut, on dit le croyant est le miroir du croyant.
Mmh.
Et si on voit... Vrai. Un défaut ou quelque chose chez une personne, c'est parce que ça arrive souvent, on a tout le temps des jugements en permanence. On voit quelqu'un juste pour une question d'apparence, on peut avoir des jugements.
C'est vrai. C'est humain. Oui, on fait tous ça, je pense.
Et nous, on retourne en se disant, mais si j'ai vu ce défaut, c'est que ce défaut, il est chez moi.
Ça, des fois, c'est dur à admettre. Enfin, moi, j'ai vu des... On m'avait déjà dit ça aussi, donc je l'entends. Des fois, je me dis, c'est pas possible. Je n'ai pas le même défaut. Mais si. On laisse,
Et pourquoi se poser la question, pourquoi est-ce que cette personne-là, ce que je vois, c'est un défaut? Et pourquoi je vois pas ses qualités qui sont encore plus nombreuses? Donc, c'est. Ça aussi, ça fait partie de la.
La
méditation, de changer son regard, de changer sa vision.
Mais c'est vrai que, Dominique, tu fais ça aussi, rassure-moi.
De quoi?
D'être dans le jugement et de dire c'est pas possible, j'ai pas le même défaut.
Non, enfin, de regarder le défaut. Enfin, le défaut que je peux voir chez l'autre, c'est ce que j'ai à travailler finalement.
Oui. Des fois, c'est dur à admettre quand même.
C'est là où il y a un changement de regard.
Mais c'est intéressant comme travail.
Oui.
C'est l'enseignement en fait. C'est accepter l'enseignement que je reçois quand. Si je vois le défaut chez l'autre, ça veut dire que je dois travailler, moi, ce défaut-là chez moi.
Oui.
Et tout ça, ce sont des fruits de la méditation. C'est toujours pareil, dès qu'on veut prendre, dès qu'on a l'ego, c'est une lutte contre l'ego, dès qu'on veut prendre le dessus et qu'on veut avoir la main sur les choses, on passe à côté.
C'est du contrôle.
Donc, voilà.
C'est ça.
Donc il y a aussi une autre histoire là, de Soufi, là, où une personne qu'on appelle Nasruddin, qui est assez connue dans les histoires.
Oui, ça me dit quelque chose.
C'est un peu un saint, mais qui a ses moments de folie aussi. Et donc un jour, il se promène et il rencontre un ermite qui est un petit peu à l'écart, et il le trouve dans une position assez acrobatique, incroyable. Et donc, il le voit, il échange avec lui, et il lui demande qu'est-ce que tu fais là? Et la personne lui dit, ben voilà, moi je suis en harmonie avec l'univers, je me mets en harmonie avec l'univers. Et Nasruddin lui répond, ah oui, mais c'est très bien, mais tu sais, moi j'ai un poisson qui m'a sauvé la vie. Donc l'autre était étonné, il dit, mais comment un poisson peut te sauver la vie? Et il me dit, ben j'avais faim, j'avais plus rien à manger, j'étais dans le désert, et là j'ai croisé un enfant, il m'a sorti un poisson, on l'a fait frire et on l'a mangé. Et en fait, c'est ce qu'on disait juste avant, tout ce qu'on doit changer, c'est notre regard sur les choses.
Oui, complètement.
Il ne faut pas chercher... des choses absolument exceptionnelles. Déjà, changeons notre regard sur le monde.
C'est vrai.
Et donc ces méditations, elles doivent nous amener à ça, en fait.
Changer la perception des choses. Sophie, tu nous as rejoint.
Coucou.
Bonjour Sophie.
J'arrive pile poil quand on parle l'univers et tout ça.
C'est un signe. C'est un signe. On parle de méditation, Sophie.
Ouais. Et son changement de comment voir les choses.
Voilà, c'est ça. Alors, ben nous allons faire une petite pause musicale. On va écouter Awa Dalo, c'est ça, Dali Farkatouré, Toumani Diabété.
Voilà.
Yes. Ça fait un peu comme je parle bien. Alors, je vais lancer en espérant que ça marche. Et ben, on se retrouve dans quelques minutes.
Et je serai là.
Et tu seras là, Sophie.
Thank you.
retour, pardon, dans l'émission 30 minutes de bonheur, où nous recevons Antoine, Dominique, et nous parlons de méditation soufie. Voilà. Alors Antoine, nous t'écoutons pour la suite.
Soufie, ça s'écrit comment?
S-O-U-F-I-E.
Ah d'accord.
Voilà.
D'accord.
Pas Sophie, hein, soufie.
Voilà.
On peut peut-être lancer la méditation Sophie, mais je ne sais pas.
Sagesse. Tu crois qu'elle est sage?
Je ne sais pas.
Ça vient de la laine dans la culture arabe.
D'accord.
Parce que c'est... On portait des habits de laine pour les pauvres. C'est le signe du pauvre, en fait. Le soufi, c'est le pauvre.
D'accord.
Comme on dit, c'est que comme il faut se débarrasser de son ego, de ses illusions, en fait, finalement, on est. C'est dans cet état-là que l'on peut recevoir soit la connaissance, soit des. C'est l'état de pauvreté. On dit pour. C'est comme aller prendre de l'eau dans la rivière. Il faut aller se baisser. Et il faut prendre l'eau dans la rivière. Donc le terme de soufi, c'est ça.
D'accord.
Cette notion d'abaissement intérieur pour avoir la connaissance.
De simplicité, en fait. Enfin, c'est se débarrasser, comme on disait tout à l'heure.
Oui, ouais, c'est toujours
un peu la volonté, en fait. De débarrasser de cette volonté.
Oui. C'est la simplicité, finalement. Enfin, c'est un retour à l'état... À l'état, comment dire, l'état pas primaire, mais nature première finalement.
Oui, on appelle ça la fitra. Quand l'enfant naît, à sa naissance, il a toute la connaissance.
Oui, c'est ça.
Et finalement, c'est à travers notre éducation, notre évolution, qu'on finit par se voiler, par se masquer.
Oui.
Et c'est le retour à cet état initial.
Enlever les masques.
Enlever les masques, oui. Au pluriel.
Ah bah on en acquiert quand même au long d'une vie.
Puis des fois on l'enlève, puis on le remet.
Ouais, c'est ça.
C'est ça.
Ça va, ça vient.
Puis on se dit, oh, c'est pas vrai.
Ouais, bah oui.
Et le cœur, on le représente comme un miroir qui est rouillé. Et par ces pratiques de méditation répétées, régulières, on polie ce miroir pour lui enlever la rouille et qu'il puisse enfin refléter la lumière.
Et du coup, au quotidien, toi, comment tu appliques ça? Parce que tu as un métier à côté. Donc, est-ce que tu arrives au quotidien à appliquer
Oui, on a des pratiques tous les jours, régulières, hein, de méditation, le matin, le soir. Ça, c'est ce qui permet d'alimenter. On se voit régulièrement, voilà. Avec donc, il y a des pratiques qui sont vraiment silencieuses, intérieures, de méditation. Et puis, quand on est en groupe, il y a ce qu'on appelle le sama, c'est-à-dire le chant, l'audition spirituelle, qui sont des chants soufis. Et donc on alterne entre ces différentes pratiques. Et c'est ça qui enrichit, mais la réalité, en fait, ce que je disais, l'objectif, c'est pas de faire un exercice pour ressentir un état sur l'instant. C'est véritablement se mettre dans un état de méditation qui va nous nourrir sur la journée, les semaines, les mois à venir, et qui change notre regard, notre attitude. Et on pratique finalement ça en permanence. Au début, on a des moments dans la journée où on fait nos pratiques, mais au bout d'un moment, cet état doit venir notre état naturel.
Pour éviter, en fin de compte, de se faire polluer par des idées avec lesquelles on ne serait pas d'accord ou des choses comme ça ou...
Moi, tout ça, ce sont des fruits. Ce sont les fruits de la méditation, mais l'objectif, pour le soufi, on dit, c'est la connaissance. C'est vraiment... Il y a un débat chez les soufis entre la connaissance et l'amour, lequel est le plus élevé des deux. Donc, il y a des écoles pour ça. Hein? Mais c'est ça, en fait, l'objectif ultime. C'est la connaissance de l'unique. Et tout ce qu'on vit dans notre quotidien, c'est à la fois des fruits de cette méditation. Et c'est aussi, on dit, le monde, là, il est comme une arène. S'il n'y avait pas cette arène, s'il n'y avait pas les jeux, il n'y aurait pas de cheminement. Et donc tout ce que l'on traverse, tout ce que l'on vit, c'est notre cheminement et c'est ça qui doit nous amener vers cette connaissance.
Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie et que chaque expérience vient, enfin, on vit une expérience au moment voulu pour nous faire avancer sur le chemin ou...
Oui, c'est ça. Et après, on a la liberté d'agir.
Oui, le libre arbitre, c'est ça.
Ouais. Il y a les deux, c'est un mélange des deux. Ouais. Ça dépend des points de vue, de quel point de vue on regarde.
Mm-hmm. Parce que moi, j'ai l'impression que chaque expérience vient au bon moment, même si c'est quand, pas forcément quand ça nous arrange. Mais, mais
il pourrait frapper quand même.
Oui, c'est ça, prévenir.
Bien, au fait, je vais venir.
Je préviens, ça serait gentil quand même. Des fois, ça prévient pas et c'est ça qui est... Mais bon... Chaque chose arrive au bon moment, il paraît.
Voilà, et tout a un sens. Oui. C'est ça, c'est toujours le retour au sens. Et qu'est-ce que ça nous amène et qu'est-ce que ça nous apporte?
Oui.
Ce qui nous arrive en bien et aussi en moins bien.
Mm-hmm. Ouais. Ah oui, tout est source. Enfin, ça nous fait travailler, quoi. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de travail, mais ça nous fait cheminer, disons.
Ben, c'est un travail spirituel, un travail sur soi, un travail sur son ego. Voilà. Et c'est de la... Ce que je disais comme au début, La différence, c'est que on arrête de penser qu'on va tout changer.
Mmh.
Et on laisse, je dirais, le vivant agir en nous.
Par contre, c'est sûr que arrêter de vouloir tout changer, mais par contre, se positionner vis-à-vis de nous-mêmes,
oui.
C'est de vouloir arrêter de changer quand même les choses. Si une situation ne convient pas.
Mmh.
C'est intéressant. au lieu, et on la revit, on se positionne.
Ah, tout à fait. Oui, oui.
Donc c'est de changer les choses.
Mais si elle revient, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vu quelque chose.
Ben, c'est peut-être parce qu'on ne s'est pas bien positionné. Peut-être.
Ouais,
on n'a peut-être pas voulu se dire...
Mais en fait, ce que je disais vraiment, c'est le fruit de la méditation qui nous amène à changer vraiment notre regard. Et c'est-à-dire que... Si on reste toujours enfermé dans notre mental, dans notre même cycle de réflexion, dans notre même cycle de vie, on revit les mêmes choses et on tourne en rond.
Ah oui, complètement.
Un peu, et on revient toujours sur les mêmes points. Là, c'est vraiment d'avoir cette rupture.
D'avoir, ça lâcher prise.
D'avoir un regard. Et comme on dit, être spectateur du changement. Et à travers ces méditations, voir comment on purifie son cœur, comment finalement ce miroir, il se transforme. Et que quand l'événement reviendra, on le verra plus du tout de la même façon. Et ce qui pouvait être une épreuve devait peut-être devenir quelque chose de simple.
Mmh. Oui, bah oui, parce que je trouve que la vie nous teste quand même. Enfin, j'ai l'impression. Quand enfin, je sais pas toi, Sophie, mais moi, si je comprends, enfin, quelque chose, je peux être sûre que quelques jours après, paf, ça me revient. Enfin, la vie, elle me met à l'épreuve pour voir si j'ai bien. Parce que toute seule sur le canapé, c'est facile.
Tout à fait.
Mais je pense que moi, j'ai l'impression que la vie est test, en fait, pour voir si on a bien compris le. Si. Enfin, je sais pas si c'est que moi qui a cette impression.
Si.
Je me sens seule.
Mais... Non, mais c'est vrai. Et puis, des choses qui sont acquises, ça passe tout seul, oui.
Est-ce qu'on est quand même beaucoup dans le contrôle? Enfin, je sais pas. Enfin, je dis on, mais je. Mais je pense que je ne suis pas la seule à vouloir contrôler la vie, à vouloir contrôler les autres, les événements et tout. Je pense que...
Donc voilà, ça, c'est de lâcher prise.
Oui, c'est de lâcher prise.
C'est de lâcher prise. Donc ça, ça ne vient pas... Ça vient pas tout seul.
Puis des fois, on y arrive et d'autres fois, on n'y arrive plus.
Oui, il y a le...
C'est vrai.
Voilà, donc c'est... En fait, nous, c'est un petit peu ça qu'on essaye de partager. Mm-hmm. C'est cette méthode, en fait, que... Il y a une méthode, mais ça va au-delà de la méthode.
Voilà.
Et donc, comme je disais, c'est de partager ce goût de ce que l'on fait, comment est-ce que ça se passe à travers ces moments de méditation, où on répète certains mantras, des moments qui sont très silencieux, du sama, du chant, et des échanges aussi comme ça. C'est toujours très convivial aussi en même temps, parce que tout ça, c'est important qu'il y ait la joie dans tout ce qu'on fait.
Ah oui.
Et c'est pas quelque chose de... Faut pas être trop sérieux non plus, quoi.
Ah non, c'est pas drôle.
Tout ça peut se faire dans la bienveillance, dans
tout
la joie.